Chères auditrices et chers auditeurs, bienvenue à ce cinquième cours de notre cycle intitulé « Présence africaine dans les musées d'Europe ». Cinquième cours qui reprend après l'interruption occasionnée par la crise du virus corona. Et nous reprenons donc sur un mode virtuel, sans nous voir, mais mes pensées sont avec vous. Le cours d'aujourd'hui est consacré au lien, à la relation entre l'armée ou les armées européennes ou les armées des puissances coloniales et les musées de nos capitales à Londres, Paris, Berlin, Stuttgart, Bruxelles, etc. Je résume, comme j'ai coutume de le faire, les épisodes précédents en quelques mots. Nous nous étions intéressés d'abord au XVIe siècle, à l'arrivée, dans le cadre du premier cours qui s'intitulait « Premiers objets », à l'arrivée de pièces venues principalement de l'ouest de l'Afrique, souvent en ivoire, ou des objets manufacturés extrêmement finement travaillés, qui avaient fait leur entrée au XVIe siècle dans les Kunstkammer, dans les cabinets des merveilles des souverains européens. Un mode de collection, un mode de musée, un mode muséal qui disparaît progressivement au XVIIe et XVIIIe siècle. Nous avions fait ensuite, au second cours, un grand bond vers la période que nous appelions avant Berlin, avant 1884, avant la conférence qui a mené au partage de l'Afrique, et nous avions constaté que dans le dernier tiers du XIXe siècle, ou dans la seconde moitié, des personnes ou des équipés qui étaient à la limite entre des types d'aventuriers ou des explorateurs ou des scientifiques qui avaient néanmoins des missions précoloniales, si on veut, avaient collectionné dans différents domaines, sur la base d'un consentement réciproque avec les populations, les rois, les souverains qu'ils rencontraient, collectionner des pièces ou des objets, des spécimens botaniques, des restes humains, des crânes notamment, des objets du quotidien, mais encore des armes, des animaux, des mammifères qui avaient été envoyés dans les métropoles européennes où des musées spéciaux n'étaient pas créés pour ces collections extra-européennes et les collections avaient été réparties dans les établissements existants, muséums d'histoire naturelle et musées existants comme le Louvre par exemple, si on regarde le cas de Paris. Puis, dans le troisième cours intitulé « De grands musées vides », nous avions constaté qu'après 1884, après donc la conférence de Berlin qui avait poser les bases et les conditions du partage de l'Afrique entre puissances coloniales, qu'à ce moment-là, exactement au même moment, on observe une synchronicité, la création de grands musées dits ethnographiques ou dans le domaine allemand Völkerkundemuseen, qui vont être destinés aux arts ou aux pièces, aux artefacts extra-européens. La séance s'intitulait alors « De grands musées vides » et nous avons constaté que ce grand musée vide qui donc se multiplie dans la construction, se multiplie après 1884 et en particulier autour de 1900. Ces musées vides ne restaient pas très longtemps vides. Vous voyez ici une vue du musée ethnographique de Berlin tout à fait rempli qui explose sous les collections. Nous avions donc vu que dans ces années 1884-1920, les musées grossissaient, se remplissaient de collections extra-européennes, notamment venues des régions coloniale. Nous avions essayé aussi dans le cours précédent de prendre le point de vue de ceux qui perdaient ces objets avec le très beau texte « Perte de monde » d'Achille Mbembe que nous avons lu ensemble. Et puis, nous nous sommes rappelés que les premiers musées donc ethnographiques comme le musée du Trocadéro à Paris ou les musées du domaine germanophone ou d'Angleterre ou de Belgique avaient un passé colonial affirmé, assumé, et que leurs collections, nous avions regardé quelques statistiques, étaient de provenance coloniale, tant géographiquement, chaque colonie faisant venir des objets de ses propres collections, que en termes chronologiques, la période des colonies étant la période d'arrivée maximale des objets, ce qui vaut pour toutes les collections européennes. Et nous voici arrivés au cours d'aujourd'hui, donc armée et musée. Le cours sera articulé, comme toujours, en trois volets qui s'intitulent cette fois, premièrement, la culture du butin, secondement, les événements de spoliation coloniale et troisièmement, collection collatérale. Et pour m'en tenir à notre tradition, je commencerai par un document du jour, une photographie qui circule beaucoup depuis quelques années, qui est bien connue, une photographie qui représente des officiers de l'armée britannique assis sur ou au milieu d'un tas de pièces qu'ils viennent de confisquer, qu'ils viennent de piller, dont ils viennent de faire le butin. On est à Benin City, dans l'actuel Nigeria, en 1897, dans le cadre de ce que les Britanniques, et en traduction aussi, nous qualifions d'expédition punitive contre le royaume du Bénin en 1897, une expédition sur laquelle on reviendra pendant le cours, qui a donné lieu à une importante documentation photographique. Ce qui est intéressant dans ce document-ci, c'est qu'il montre d'une part des officiers, donc en position de qui se montrent, qui se mettent en scène avec leurs trophées, ces trophées étant, qu'on voit au premier rang, je vous montre un autre tirage de cette photographie, le tirage original, ces pièces étant des cornes, des défenses d'éléphants gravées, des bronzes, ce qu'on appelle les bronzes du Bénin, des pièces de bronze, et il semble, sur ce cadrage en tout cas, que leur butin est non seulement devant eux, mais encore derrière eux. Ce qui m'intéresse beaucoup sur cette photographie, c'est moins... c'est la pose du triomphe, la pose de la prise de trophée, mais c'est également le fait que cette photographie est conservée dans les collections du British Museum, où cette présence de cette photographie nous montre combien les musées ne sont pas seulement des lieux où sont exposés des objets qui ont pu être l'objet ou le fait d'un butin, arriver avec des butins, mais ces musées sont aussi des lieux qui conservent des archives considérables, archives écrites, archives photographiques, qui permettent de reconstituer l'histoire de l'arrivée des objets, l'histoire des collections. Et ici, on peut faire un lien direct entre les objets montrés sur la photographie et certaines pièces des collections du British Museum. Et c'était important pour moi de commencer avec ça, puisqu'aujourd'hui, on ne parlera pas d'expéditions dites punitives en soi. On ne va pas regarder la chronologie détaillée des attaques, des assauts, des provocations des uns et des autres, des ripostes, de la résistance, mais on va essayer de mettre l'accent sur le lien entre butin de guerre dans l'Afrique coloniale et d'autre part la question des musées, de ces musées qui s'accroissent, qui grandissent, qui se nourrissent toujours davantage de ces collections. La bibliographie que j'utilise pour ce cours se compose principalement d'une thèse extrêmement intéressante de Olivier Bangiam, soutenue il y a quelques années à l'Université de Nanterre et intitulée « Les officiers français, constitution et devenir de leurs collections africaines issues de la conquête coloniale », un travail de thèse très remarquable qui permet d'éclairer la situation dans les collections françaises. Et ce type de travaux sur les butins de guerre dans les collections françaises ou les collections militaires, disons, dans les musées européens, se trouvent pour d'autres musées également. J'évoque volontiers, je l'ai déjà montré une fois, l'ouvrage de Dan Hicks, mon collègue conservateur au Pitt Rivers Museum d'Oxford, ouvrage intitulé « The Brutish Museums », où il est question de la brutalité des musées. Il s'intéresse particulièrement aux musées britanniques et à la présence des bronzes dits du Bénin, sur lesquels on reviendra. Pour le cas allemand, j'évoque volontiers, où j'ai travaillé avec ce gros ouvrage intitulé « Humboldt-Lepp, Tanzania », et dont le sous-titre est « Objekte aus den Kolonialkriegen im Ethnologischen Museum Berlin », donc « Objets provenant des guerres coloniales au musée ethnologique de Berlin ». Vous voyez que chaque région d'Europe, chaque pays, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, dispose désormais depuis quelques années de travaux sur ces questions, sur la part militaire des musées. Et puis ensuite, j'ai utilisé bien volontiers la thèse récemment parue de Gaël Beaujean sur l'art de cour d'Abomey, dont le sous-titre est « Le sens des objets », paru aux presses du Réel, qui porte certes un titre concentré sur l'art, et qui nous enseigne beaucoup sur l'art de cour d'Abomey, de l'actuelle République du Bénin, mais qui est aussi une mine d'informations sur les conditions dans lesquelles ont été prises les objets, ces fameux objets, ces fameuses statues notamment, qui font l'objet de demandes de restitution. Si on retourne la bibliographie, si on tente de regarder ou de saisir la voix de ceux qui ont été dépossédés ou qui ont été dépossédés, on voit un très important nombre de publications concernant notamment l'expédition dite punitive de Benin City ou des Britanniques à Benin City en 1897, comme cet ouvrage publié au Nigeria intitulé Benin 1897.com, ou encore cette somme, The Benin Monarchy, publiée sous la direction de Orlitz Onuwaye tout récemment, et qui est une somme de travaux sur l'ancien royaume du Bénin vu du point de vue du Nigeria. Par ailleurs, comme vous le savez, les pièces qui ont été prises à l'époque coloniale font particulièrement l'objet de demandes de restitution. Et je vous invite à lire notamment cet article de Felicity Bodenstein, qui est maître de conférence à la Sorbonne à Paris, qui s'intéresse à la question, elle aussi, des bronzes du Bénin. Ce n'est qu'un exemple, et on peut, évidemment, on pourrait élargir considérablement cette bibliographie qui augmente beaucoup depuis 4 ou 5 ans dans les différents pays d'Europe. Première partie, la culture du butin, donc. La culture du butin est intimement liée à la pratique de la guerre. Elle est codifiée depuis le XVIIe siècle au plus tard. Du point de vue juridique, jusqu'à l'extrême fin du XIXe siècle, le droit de, je cite, « ravager et de piller ce qui appartient à l'ennemi » et le, je cite toujours, « droit de s'approprier ce qui a été pris sur l'ennemi », pour reprendre la terminologie du juriste néerlandais Grotius, dont vous voyez l'ouvrage ici, De Jure Belli, sont des pratiques de guerre licites et bien fixées dans les codes et dans les pratiques militaires. Au XIXe siècle, les annexions patrimoniales deviennent le corrélat naturel des guerres de conquête et sont absorbées juridiquement et physiquement par les États conquérants. Au milieu du XIXe siècle, en 1854, Robert Phillimore, le plus célèbre juriste anglais de son temps, considère, je cite, que tous les États civilisés reconnaissent la maxime selon laquelle les acquisitions de guerre appartiennent à l'État. Cette situation, donc, cette corrélation, ce lien entre guerre de conquête, guerre et prise de butin, a une longue tradition, qui, pour ce qui concerne les pays européens entre eux et quelques autres, va s'interrompre en 1899, à l'extrême fin du XIXe siècle, lorsqu'à La Haye, la première conférence d'une vingtaine d'États européens et de 4 ou 5 pays non européens, que vous voyez réunis ici dans le hall, dans la salle d'orange du palais Bosch, Ten Bosch à La Haye, ces représentants des États, donc de l'Allemagne, l'Autriche, la Hongrie, la Belgique, etc., jusqu'à la Suisse, États européens, ainsi que les représentants de la Chine, des États-Unis d'Amérique, du Japon, du Mexique, de Perse et de Siam, décident entre eux prennent entre eux un certain nombre de mesures pour protéger les biens matériels et en particulier les biens de culte. Ils se fixent dans cet acte final de La Haye la ligne de conduite selon laquelle l'article 46, l'honneur et les droits de la famille, la vie des individus et la propriété privée, ainsi que les convictions religieuses et l'exercice des cultes doivent être respectés. Et aussi et surtout, toujours dans l'article 46, la propriété privée ne peut être confisquée. Par ailleurs, dans l'article 47, il est précisé que le pillage est formellement interdit. Et dans l'article 56, que les biens des communes, ceux des établissements consacrés au culte, à la charité et à l'instruction, c'est-à-dire par exemple les églises et les musées, aux arts et aux sciences, même appartenant à l'État, seront traités comme la propriété privée. Donc on n'y touche pas en temps de guerre, ils ne peuvent être l'objet de confiscation. Et à l'article 56, il est stipulé que les biens des communes, ceux des établissements consacrés au culte, à la charité et à l'instruction, aux arts et aux sciences, c'est-à-dire les musées notamment et les bibliothèques, même appartenant à l'État, seront traités comme la propriété privée, seront donc intouchables, ne peuvent faire l'objet de confiscation en temps de guerre. Toute saisie, destruction ou dégradation intentionnelle de semblables établissements, de monuments historiques, d'œuvres d'art et de sciences est interdite et doit être poursuivi. Alors, ce que les nations réunies à La Haye se proposent pour elles-mêmes, elles ne l'appliquent pas pour leurs colonies. Seuls les signataires sont bénéficiaires de ces règlements. Et se déploie donc dans le courant du XIXe siècle et au début du XXe siècle, pour ce qui concerne les colonies, une véritable culture du butin qui prend qui se matérialise, qui est visible dans un très grand nombre de d'ouvrages populaires, de petites cartes qu'on trouve dans les paquets de cigarettes ou sur les barres de chocolat collectionnées, etc. Je vous montre ici un ouvrage de ce type britannique, les trophées et reliques personnelles de héros britanniques, donc. Et si de 1896, et quand on feuillette cet ouvrage extrêmement impressionnant, on trouve d'une part, par exemple, ce manteau pris à Waterloo dans la voiture de Napoléon, donc on est dans les années 1815, à une époque où ce type de prise de guerre était encore permis, mais si on continue de feuilleter, on voit des pièces prises par l'armée britannique en Inde, en Asie, en Égypte, et également sur le continent africain qui nous intéresse particulièrement. On va s'arrêter quelques instants sur cette représentation ici, sur ce dessin imprimé, cette aquarelle reproduite dans cet ouvrage qui nous renvoie au troisième cours que nous avions eu et qui concernait la période d'avant Berlin. Souvenez-vous, dans le troisième cours, nous avions évoqué en 1826 la mission de Bowditch qui avait été envoyée par les Britanniques dans le royaume d'Ashanti, dans l'actuel Ghana, où il avait fait une documentation très précise des fêtes et dont il avait rapporté des cadeaux que lui avait donné le roi pour le musée britannique, pour le British Museum. On savait donc depuis cette époque au plus tard qu'il s'agissait d'un royaume extrêmement riche, extrêmement attentif à la fabrication d'ouvrages dynastiques, de pièces dynastiques, et très souvent en or massif. En 1874, la capitale du royaume Ashanti, Kumasi, va être prise dans l'une des guerres que les Britanniques mènent avec le royaume Ashanti, donc dans l'actuel Ghana, et on va voir se multiplier dans la presse britannique des mentions de la prise de la ville et des objets qui en ont été rapportés. Je vous montre ici une page de la revue The Graphic où on voit sur la partie supérieure des officiers britanniques du corps expéditionnaire de 1874 à Kumasi, donc le portrait des héros si on veut, et en bas dans l'encadré un certain nombre de pièces qui sont qualifiées de war trophies, c'est-à-dire de trophées de guerre, et la mise en scène sur la même page des militaires en haut et des objets en bas montre bien le lien extrêmement étroit entre les deux pratiques, celle de la guerre et celle de la mise en scène, même sur le papier déjà, sous forme graphique, et puis on le verra dans les musées, des objets rapportés. Après 1874, après cette prise de Kumasi, de très nombreuses reproductions sont publiées dans la presse et vous voyez bien à la manière dont elles sont reproduites qu'il s'agit de pièces isolées, sorties de leur contexte. On n'est pas dans une publication de type ethnologique qui nous explique la fonction de ce parasol, de ces têtes, de ces sabres notamment, mais il s'agit bien de montrer des trophées. Ici, le titre, le sous-titre, la légende de l'image est « Spoils from Kumasi », c'est-à-dire des spoliations, les trophées pris à Kumasi. On pourrait multiplier longtemps ce type de reproduction, donc dans la presse britannique du XIXe siècle. Vous voyez ici encore les trophées Ashanti, et en particulier au centre de cette mise en scène d'objets ici, qui a déjà quelque chose de muséal, si on veut, ils sont organisés, ils sont posés les uns à côté des autres dans d'une manière qui raconte quelque chose, avec cette tête au milieu, tête que l'on retrouve d'or, en or massif, que l'on retrouve aujourd'hui dans les collections de la Wallace Collection. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est de voir combien, y compris sur la page web de ce musée et dans ses catalogues, ce cette tête continue aujourd'hui d'être qualifiée de tête trophée. Vous voyez d'ailleurs que dans la partie inférieure, que le musée donne une indication de son poids. Elle pèse 1,36 kg. Elle est en or massif, mais rien ne précise aujourd'hui sa provenance militaire. On ne rappelle pas ici qu'il s'agit d'une prise de guerre en 1874 dans l'actuel Ghana. En revanche, le titre de la pièce nous rappelle qu'il s'agit d'un trophée. Donc on voit qu'il y a bien une continuité de la culture du butin entre le 19e siècle et nos jours, et que les musées ont pris pour eux, ou ne se sont pas encore séparés, ou n'ont pas réfléchi à l'usage de leur terminologie. Aujourd'hui, je le disais, cette tête en or massif, qui n'est qu'une des pièces extrêmement nombreuses prises à l'époque en 1874 par l'armée britannique au Ghana. Je dis prise, en réalité, c'est un petit peu plus compliqué. Ce sont des frais de guerre que le roi a dû payer pour se libérer de certaines contraintes dans le cas britannique. Il faudrait entrer dans les détails pour en parler plus précisément. Ce qui m'intéresse ici, c'est de voir comment ces objets sont arrivés et ont été muséalisés. Donc cette tête énorme venue de l'actuel Ghana se trouve dans les collections de la Wallace Collection à Londres, qui est plus connue pour ses mises en scène et ses collections du XVIIIe siècle et baroque. Elle est présentée, ou elle a été longtemps présentée dans la partie consacrée aux armes. Et vous voyez sur cette photographie d'une des salles consacrées aux armes que, notamment au-dessus des portes, l'idée, la mise en scène d'armes autour de boucliers, et ici une mise en scène qui rappelle finalement l'origine du trophée antique. Et si on se penche sur la vitrine, on retrouve notre tête ici, tête, je le disais, qui est aujourd'hui, ou je ne le disais pas, je le dis maintenant, qui est aujourd'hui l'objet de réclamations de la part du Ghana, et pas seulement aujourd'hui, on y reviendra depuis les années 60, depuis l'indépendance du Ghana. Ce pays tente de récupérer un certain nombre de pièces prises à Kumasi. Ce que je voulais dire donc par ce détour, c'est qu'on a une longue continuité du lien entre trophée et musée. Et si on revient à notre illustration de tout à l'heure et qu'on tente de tracer ou de repérer la présence de ces objets dessinés et publiés à la fin du XIXe siècle, on les retrouve dans les collections, notamment dans les collections royales de la reine d'Angleterre à Windsor. Je vous montre ici une hache d'apparat prise au roi Ashanti, et vous voyez que le musée lui-même rappelle qu'il s'agit bien d'une prise, non, ne le rappelle pas d'ailleurs, l'origine guerrière de cette prise. On peut continuer avec les autres objets, ce sabre d'apparat, par exemple, qui est lui aussi au château de Windsor et fait partie des collections royale britannique, ou encore cette autre tête en or qui, comme la précédente, est qualifiée de tête trophée dans les collections royales britanniques. Grande continuité donc, mais dès la fin du XIXe siècle, un certain malaise des visiteurs de musées, de ceux qui opèrent des descriptions des musées à l'égard de cette collection. Vous voyez ici un ouvrage de 1882 qui décrit les collections de South Kensington, qui sont ensuite passées dans les collections du Victorian Albert Museum. Et ici, vous reconnaissez d'une part la tête Ashanti, venue donc de ce pillage de Kumasi, mais l'auteur se plaint et fait une remarque sur la provenance difficile ou sensible de ces objets, lorsqu'il dit notamment « Ces trophées africains, donc au futur musée Victorian Albert, ces trophées africains évoquent de façon désagréable la pire phase de la politique britannique ou sa grossièreté politique. » Mais ce sont de petits incidents dans un musée qui sera à jamais considéré comme le fruit le plus mûr de la longue ère victorienne et victorieuse de la paix. Donc, finalement, ici, le musée, comme toujours, en fait, depuis le début du XIXe siècle, est présenté comme un lieu de culture, de paix, de civilisation, de victoire et de paix. Et la présence de pièces prises dans des conditions sanglantes, d'objets dont on pourrait dire que du sang est accroché à eux, ne constitue, pour cet auteur en tout cas, qu'un élément un peu gênant, mais finalement ce qui domine, c'est l'œuvre de civilisation du point de vue de cet auteur. Et on verra, on va le voir tout de suite, qu'au fur et à mesure que le temps passe, entre le début du XXe siècle et nos jours, dans les 150 années qui viennent de passer, la provenance, l'origine militaire, l'origine guerrière, des pièces arrivées dans nos musées, souvent, dans certains musées, hein, et en particulier dans les musées français, a été gommée, si bien qu'aujourd'hui, quand on va dans ces musées, on oublie ce passé que l'auteur ici qualifie de désagréable. On a évoqué à l'instant le cas de la prise de Koumassi en 1874, mais il n'est qu'un cas parmi de nombreux événements événements de spoliation coloniale. J'en indique quelques-uns ici, Ségou 1890, Magdala 1868, Benin City, on l'a déjà évoqué, 1897, la Tanzanie en 1904, la Namibie en 1907, Abomey en 1892. Quand on y regarde de plus près, et je me suis attelée à cette tâche avec le collègue que j'évoquais tout à l'heure, Dan Hicks, du Pitt Rivers Museum, on constate que, par exemple, simplement dans les musées dans le musée Pitt Rivers à Oxford, on peut comptabiliser entre 250 et 300 événements de spoliation coloniale, c'est comme ça qu'on les appelle dans le travail qu'on a mené, et cette centaine d'événements, de batailles, de moments de friction coloniale ou même de massacres coloniaux ont toujours apporté des objets dans les collections européennes, donc non seulement britanniques mais également françaises, autrichiennes, belges, aux Pays-Bas, etc. J'en arrive donc à la deuxième partie pour laquelle je reprends le titre ou le concept d'événement de spoliation coloniale que nous avons élaboré avec Dan Hicks pour en regarder quelques-uns, quatre à vrai dire, avec vous en détail et en essayant de leur faire raconter à chacun quelque chose de différent. Évidemment, pour bien faire, il faudrait consacrer plusieurs séances à chacun de ces événements de spoliation coloniale, puisque tous, à chaque fois, se déroulent dans un contexte bien particulier, bien différent, et la contextualisation est extrêmement importante. Donc, vous me pardonnerez de passer un peu vite sur ces différents cas, mais il s'agit pour moi ici de vous montrer de quelle manière on peut leur faire raconter on peut tirer d'eux une dimension d'histoire culturelle des collections européennes. Alors je repars chronologiquement quelques années avant l'événement de Koumassi qu'on vient d'évoquer pour me déplacer avec vous dans l'actuelle Éthiopie qu'on nommait alors l'Abyssinie, et dans l'année 1868, lorsqu'a eu lieu la grande campagne d'Abyssinie, je vais y revenir dans un instant. Les quatre exemples vont nous porter donc dans l'actuelle Éthiopie, dans l'actuelle Mali, à Ségou en 1890, dans l'actuelle République du Bénin, victime de plusieurs expéditions militaires au début des années 1890, et puis à Benin City, que j'ai déjà évoqué, mais qui constitue peut-être l'exemple le mieux documenté, le plus discuté et le plus riche de spoliation coloniale, ayant eu des conséquences d'enrichissement d'un très grand nombre de musées dans le monde. Magdala, en 1868, nous sommes là encore dans le cas d'une expédition dite punitive britannique qui a été extrêmement bien documentée, notamment parce qu'elle a fait l'objet de très nombreux récits dans la presse britannique et européenne, et en fait mondiale, de la fin des années 1860, et notamment d'une monographie, d'un texte entier, d'un grand reportage, si on veut, du célèbre explorateur Henry Stanley, intitulé « Koumassi et Magdala ». On est extrêmement bien informé par ailleurs de cet événement, parce qu'il a fait l'objet de travaux très nombreux depuis les années 80, notamment de Richard Pankhurst, qui a beaucoup travaillé sur les manuscrits déplacées ou bien que l'Europe s'est appropriées au moment de la prise de Magdala et qui ont été transférées en Europe et notamment à Londres. Dans le récit de Stanley, il est question de la présence auprès des armées en 1868 de Mr. Holmes, qui est un représentant du British Museum ou de la British Library. Là, j'hésite un instant, il faudrait relire. En tout cas, il est envoyé par la British Library ou le British Museum, l'une des deux institutions, pour collecter directement derrière les armées des pièces qui pourraient être importantes pour leur collection. Vous voyez ici qu'il est dit que Mr. Holmes était un spécimen de bénévole britannique très typique et qu'il était toujours prêt à mettre en valeur la dignité britannique. Il était venu en Abyssinie pour collectionner des manuscrits et des articles, des pièces antiques pour le British Museum, nous dit Stanley. Ici, extrêmement intéressant et important pour nous, cette présence d'un homme de musée, d'un homme de bibliothèque, directement auprès de l'armée, pour se servir, en fait, des collections qui pourraient être prises dans le cadre d'une prise de butin. La suite de l'ouvrage décrit très précisément les prises de guerre menées à ce moment-là, à Magdala, et surtout, et c'est ce qui m'intéresse beaucoup dans cet extrait de texte, sur la mise aux enchères sur place des objets collectés. Cette pratique de la mise aux enchères des objets collectés est absolument courante dans le contexte de l'armée britannique, un peu moins dans le contexte de l'armée française, mais enfin les objets pris dans le contexte de ces batailles, de ces assauts militaires, sont répartis souvent, font l'objet d'une première répartition sur place entre les officiers qui soit les achètent dans le cadre de ces enchères, soit se les répartissent en fonction de règles bien fixées. Je lis un extrait de cette page qui concerne donc la vente aux enchères menée à Magdala en 1868, directement après la bataille. Le commissaire priseur choisi fut le lieutenant S., un officier infatigable qui avait été doué par la nature de la physionomie caractéristique du premier Napoléon. Les tapis les plus fins de tous les pays étaient étalés à la ronde et tout l'attirail de 1000 églises, d'Abyssinie donc, région chrétienne, scintillait dans la lumière du matin et se bousculait dans la confusion caractéristique des foules et gentlemen acheteurs qui pour la première fois étaient des connaisseurs en antiquité et faisaient preuve d'une remarquable perspicacité en discernant le clinquant de l'authentique, les paillettes de l'or. Les nombreuses pièces éparpillées, preuve de l'égoïsme coquet de l'empereur Théodore, qui venait donc d'être vaincu, ou de sa folie de harem, ont inspiré des remarques bizarres aux personnes à l'esprit vulgaire et grossier. Les enchérisseurs ne manquèrent pas. Chaque officier et chaque civil désirait quelques souvenirs de Magdala. L'un achetait une croix d'argent ou de laiton, un autre un encensoir, un autre encore choisissait une épée. Des coupes et des gobelets, des images et des calices d'argent, il y en avait en abondance. Des soies, des parapluies, des selles resplendissants de filigranes d'or et étoilées de pierres de couleur, des tentes, des tapis, des bibles et des manuscrits richement enluminés, des bibelots et des bijoux trouvèrent des acheteurs enthousiastes. Mr. Holmes, en tant que digne représentant du British Museum, voilà, nous avons la réponse, du British Museum, était tout à sa gloire. Armé de larges fonds, donc richement doté, il surenchérissait sur presque tout. Mais le colonel Fraser le tenait en haleine, car il achetait pour un riche mess régimentaire le 11e hussard. Et lorsque les objets personnels de Théodore étaient mis en vente, des particuliers surenchérissaient sur les deux. Lorsque le bouclier de Théodore, utilisé par lui dans ses jeunes années, fut mis en vente, bien que seulement garni de quelques plaques d'argent, les enchères se firent particulièrement vives, et de 10 dollars, elles passèrent rapidement à 200 dollars, somme pour laquelle il fut acquis par le colonel Fraser. Mr. Holmes se procura de nombreux articles intéressants. La vente aux enchères dura 2 jours, le total des recettes s'est élevé à 5000 livres. Alors, ce qu'on voit ici, c'est que donc, sur place s'opère un premier tri parmi les pièces confisquées, saisies, prises à l'empereur déchu, et ces pièces vont passer dans les familles des officiers, dans les mains des officiers, à part celles qui vont directement dans celles du représentant du British Museum, et elles vont être exportées dans l'ensemble du monde dans les années qui suivent. C'est pourquoi aujourd'hui, on en trouve la trace non seulement en Europe, dans différentes bibliothèques d'Europe, y compris hors de la Grande-Bretagne, mais aussi puisqu'elles ont été négociées plus tard sur le marché de l'art. On trouve leurs traces aux États-Unis, par exemple, mais aussi en Inde et à l'intérieur de l'Éthiopie, puisqu'elles ont été dispersées. Alors en Inde, parce que certains soldats ou un grand nombre d'officiers et de soldats de l'armée britannique proviennent des colonies indiennes, et à l'intérieur de l'Éthiopie, parce que certains manuscrits ont été offerts par les officiers britanniques à d'autres rois ou représentants politiques qu'ils rencontraient dans leur campagne d'Abyssinie pour comme forme de cadeau. Donc on a une immense diaspora de ces collections de Magdala. On les trouve principalement néanmoins à Londres, à la British Library et à Oxford notamment. Vous voyez ici quelques exemplaires exposés de ces manuscrits précieux pris dans la bibliothèque de Théodore à Magdala, d'une part, et d'autre part, les objets ont été dispersés dans différentes collections, en particulier dans celle du Victoria and Albert Museum, qui les a présentés il y a quelques années. Vous voyez ici cette vitrine porte le nom de Magdala et la date de 1868 au-dessus d'elle, et la même chose en langue gaise, dans la langue locale. Alors, ce qui est très intéressant, c'est de voir que même dans une exposition récente comme celle-ci, les pièces principales sont présentées d'une manière qui assure une sorte de continuité avec l'iconographie du butin du XIXe siècle. Vous voyez ici deux pièces, un calice d'or et une couronne particulièrement prestigieuse prise à Magdala. Et ces deux pièces présentées exactement comme ça, on les trouvait déjà au XIXe siècle lorsqu'il s'agissait de magnifier les trophées britanniques, par exemple dans cette collection de petites images à collectionner dans les papiers de cigarettes, je crois, ici. Donc ces deux pièces qu'on voit au XIXe siècle comme des trésors de guerre, c'est la collection à collectionner ici de ces papiers de cigarettes est constituée de trophées britanniques. Et d'ailleurs, si on retourne ce billet, on voit bien qu'il est question des prises menées en Abyssinie, et la dernière ligne indique que les pièces sont aujourd'hui au Victoria and Albert Museum. Et quand des revendications très fortes ces dernières années ont été portées à l'égard de certains musées, il est intéressant de voir qu'elles portent particulièrement sur ces pièces qui, depuis le XIXe siècle et jusqu'à aujourd'hui, donc, sont mises en scène, même si on ne le dit plus, sous la forme d'objets pris à l'ennemi. Donc cette continuité de la culture du butin est celle qui fait que les revendications des pays dépossédés ou même massacrés, dans certains cas, se portent particulièrement sur ces pièces-là, alors qu'elles ne représentent qu'un petit nombre de pièces sur des ensembles bien plus importants. C'est ce que je voulais montrer avec cet exemple lié à Magdala aux années 1868. Et ce qui m'importe particulièrement, c'est la présence dès le début des institutions culturelles britanniques auprès de l'armée. Second exemple, je les prends dans l'ordre chronologique, celui d'Abomey, bien connu en France. Abomey dans le Dahomey, qui est aujourd'hui la République du Bénin. Et ici, je m'appuie sur le travail de Gaël Beaujean et sur notamment son travail de dépouillement des sources qui décrivent la manière dont les objets ont été pris à l'époque, entre 1892 et 1894, par l'armée française à ce moment-là. Le général, qui n'est pas encore général, qui s'occupe de ces opérations s'appelle Alfred Almédée Dodds, et Gaël Beaujean a retrouvé les traces donc de la manière dont on a traité, dont son armée a traité les objets rencontrés lors de la campagne du Dahomey. Il écrit « Les dispositions prises pour la découverte des cachettes et l'utilisation de ce qui est trouvé sont approuvées. Les objets trouvés dans les cachettes seront transportés à toute occasion à la tête d'étape qui les prendra en charge. À cet effet, un inventaire accompagnera le convoi. l'officier commandant l'escorte sera rendu responsable de la conservation et de la livraison des objets qui lui seront remis, signé Alfred Dott. On voit bien, là encore, donc, que la prise d'objets, même la recherche d'objets, les objets trouvés dans les cachettes, ces objets ne sont pas visibles, on les cherche, donc l'armée va, au-delà de ces faits d'armes, chercher ces objets de patrimoine, elle va les chercher donc, et les objets trouvés font l'objet d'un inventaire directement auprès de l'armée, un inventaire précis, et on prend garde manifestement dans la hiérarchie militaire que ces objets ne soient pas dilapidés entre les soldats. Il ne s'agit pas d'un pillage désordonné, mais bien d'un butin organisé selon les règles que j'évoquais tout à l'heure. Alors en 1892-94, dans la ville d'Abomey, dans le royaume d'Abomey, on est en présence du roi Béhanzin. Je vous montre ici une photographie conservée à la Bibliothèque nationale de France dans une enveloppe intitulée « Béhanzin à Fort-de-France en Martinique », c'est-à-dire après son exil dû à la défaite ou dû à l'expédition menée par l'armée française. On est donc 2 ans après les événements patrimoniaux, si on veut, qui nous occupe. On voit ici, sur cette photographie, donc le roi Béhanzin envoyé en exil avec l'une de ses femmes. Je tenais à vous montrer cette photographie parce qu'elle donne beaucoup de présence au parti en conflit, ou en tout cas, dans le cas de Béhanzin, celui qui est agressé par l'armée française. Et c'est important de retrouver ces photographies parce que souvent, les autres représentations dessinées ou qu'on trouve dans la presse de l'époque sont très caricaturales, représentent, accentuent des traits de barbarie ou de sauvagerie ou de primitivisme que l'on ne retrouve pas quand on regarde des photographies, même si les photographies ne détiennent pas une vérité iconographique simple. Mais en tout cas, elles sont plus proches, sans doute, de la réalité que les publications dans la presse. Donc on est en présence, dans ces années, de Béhanzin, le roi Béhanzin, d'une part, et d'autre part, de ce commandant Dots, qui n'est pas encore général, qui le deviendra, que vous voyez ici sur la gauche, Alfred Amédée Dots, dont j'ai évoqué à l'instant l'organisation, la lettre qui procède à l'organisation des saisies. On est extrêmement bien informé, et Gaël Beaujean a fait un travail remarquable en regardant tous ces textes sur la manière dont se sont opérées ces prises lors de la campagne du Dahomey, notamment dans des journaux intimes ou des récits rétrospectifs de différents soldats, militaires à différents niveaux de la hiérarchie. Je vous lis 2 extraits, l'un du lieutenant Hippolyte Marceau qui écrit après la prise d'Abomey, du palais royal, qui décrit la situation. « Tous les toits étant brûlés, les cendres tombées à l'intérieur des maisonnettes recouvrent les planchers d'une couche de 10 à 15 cm d'épaisseur. Munis de bâtons, nos noirs vont çà et là, frappant le sol dont partout la résonance nous dévoile des cachettes. Les outils du génie vont servir. Nous creusons et découvrons d'abord de fortes nattes de paille que nous enlevons. Viennent ensuite de longs panneaux de bois qui recouvrent la fosse dissimulée. Ces panneaux retirés, nous extrayons les objets les plus bizarres et les plus inattendus de ce fouillis. Mâles, coffres de bois, etc. etc. » Dans la suite du texte, il mentionne un très grand nombre d'objets différents. Et un peu plus loin, 25 novembre, nous continuons le travail de fouille commencé. Une armée dirigée par le génie est commandée à tour de rôle dans les compagnies illisibles, un peu de tous côtés. Un officier est désigné chaque jour pour surveiller les fouilles et fait porter ce qu'on en extrait devant la tente du général. Là s'accumulent les produits les plus variés, étoffes, vases, poteries, longs bâtons à sonnette des féticheurs, amulettes de toutes espèces, armes de jet et de choc, fusils, casse-tête, etc., liqueurs, etc. La cave royale mise à jour nous a doté d'environ 2500 à 3000 bouteilles. On a là encore des reproductions photographiques qui nous montrent ce type de fouille. Ici, une carte postale même, venue des colonies françaises d'Ahomey. Elle porte comme légende une fouille au palais de Béhanzin. Et on voit les officiers français assis au-dessus d'une fosse et une personne de peau noire en train de creuser dans l'une de ces fosses. Ce qui est intéressant dans la présence d'objets précieux dans ces cachettes, c'est qu'on peut soit les interpréter comme une mise à l'abri devant l'arrivée de l'armée d'objets particulièrement précieux, soit comme le fait Gaël Beaujean, il semble que dans certains cas, il s'agit de tombes royales dans laquelle avaient été accumulés des objets, probablement, peut-être, qui accompagnaient les défunts et qui n'ont pas été interprétés comme tels par les soldats. Un autre soldat, François Michel, écrit le 19 janvier 1894 « Le camp a un aspect très triste. Je ne regrette qu'une chose, c'est que le feu n'ait pas gagné les cases de l'état-major. Tu comprendras mon dire lorsque je t'aurai dit que ces messieurs s'évanouissent sur toutes les belles choses que l'on trouve dans les cachettes. Il est expressément entendu que tous les objets trouvés seraient partagés à la fin de la colonne. Mais je t'assure que les quelques bracelets, objets d'art, armes rares ou bizarres sont mis de côté par l'état-major. » Là encore, on voit par le témoignage de ce soldat qui n'est pas en haut de la hiérarchie militaire, qu'un tri s'opère déjà sur place en quelque sorte, les meilleures pièces étant prises par les officiers, par les généraux, notamment, on le sait, par le général, le futur général Dodds lui-même. Alors ce qui est extrêmement intéressant, c'est la manière dont la presse française, de même que tout à l'heure la presse britannique, rend compte de cette campagne du Dahomey et des objets qui y sont pris. Évidemment, on pourrait faire une lecture uniquement militaire ou d'un tout autre ordre de ces événements. Vous voyez bien que je porte l'attention sur les objets et que tout cela ne peut pas être déconnecté du reste des actions militaires, mais pour les besoins du cours, je le fais. Vous voyez ici, dans cette page souvent reproduite du Petit Journal, supplément illustré, une représentation de soldats français coloniaux vêtus de blanc qui sont face à un chariot sur lequel sont posées trois statues. Et la légende de cette première page du Petit Journal illustré est « Au Dahomey, les fétiches de Cana, le dieu de la guerre ». Alors on voit, en fait, au moment où ont lieu les événements dans l'actuelle République du Bénin, au Dahomey, on voit dans la presse française une mise en scène de ce fétiche de Cana, le dieu de la guerre, que vous voyez ici. C'est cette statue zoanthropomorphe avec des cornes qui fait l'objet de récits nombreux et notamment de reproductions. Par exemple, donc dans la culture populaire, le fétiche de Cana devient en quelque sorte le dieu de la guerre, le fétiche de Cana, l'objet lié à l'abdication de Béhanzin et à la prise du Dahomey. Vous voyez ici une publicité pour un souvenir utile de la campagne glorieuse du Dahomey, le couteau, un couteau de poche, un opinel couteau du Dahomey, donc vanté dans la presse, qui comporte une lame en acier, nous dit cette publicité, un manche en aluminium, et sur le manche sont gravés d'un côté le visage du général Dodds, un symbole de Cana et des drapeaux français, donc du côté gauche ici, le général Dodds en tenue de campagne, un trophée d'armes et drapeaux français et l'écusson commémoratif de la campagne au Dahomey, et puis de l'autre côté, en haut, Béhanzin, ensuite un village dahoméen, et en bas, à nouveau, Cana, le dieu, le fétiche, donc Egba ici, le dieu de la guerre, le fétiche le plus remarquable trouvé par nos soldats le jour de la prise de Cana, on le voit ici. Cet objet, à ma connaissance, n'est pas aujourd'hui conservé dans un musée français. En revanche, comme vous le savez, on l'a déjà évoqué, le palais du Trocadéro, qui vient d'ouvrir ses portes à l'époque, il a été inauguré en 1887, donc le musée d'ethnographie du Trocadéro va accueillir d'autres pièces de même provenance, comme ce siège royal pris également à Cana. Et ici, le musée met bien en valeur à l'époque, à la fin du XIXe siècle, la provenance militaire, puisque le label, le cartel, indique qu'il s'agit d'un siège royal en bois sculpté, dont du général Dodds. La taille de l'inscription est aussi grande que celle de du sous-titre, de l'indication de matériel. Hein, on est avec une pièce en bois sculpté qui est un don du général Dodds. Alors ici, on voit que la propriété privée, en quelque sorte, que s'est approprié le général dans le cadre de ce butin de guerre, va être offerte au musée. Et ce n'est pas seulement le cas du général Dodds, et on l'a vu tout à l'heure dans le cas britannique également, de nombreux officiers qui possèdent des pièces prises sur place, qu'ils se sont soit appropriées, soit réparties, soit qu'ils ont acquises aux enchères, vont ensuite, au fil des générations, parfois tout de suite arriver dans les musées, parfois être données par les descendants, ou deux ou trois générations plus tard, données au musée. Par ailleurs, on les évoquait déjà l'autre jour, les statues zoomo-anthropomorphes représentant les rois d'Abomey et, d'une part, que vous voyez ici du côté gauche, avec le même type de cartel à leurs pieds qui indique qu'il s'agit d'un don du général Dodds. Et puis à droite, ici, le fameux dieu Gou, qui est le dieu aussi, un dieu de la guerre, sont exposés très vite au musée d'ethnologie du Trocadéro, d'ethnographie du Trocadéro, où, rappelez-vous, notamment le jeune Corbusier, le Jeannonet, donc encore à l'époque, les verra et les dessinera. Je vous rappelle notre premier cours, ici, le dieu Gou, dessiné en 1907 par le futur architecte Corbusier, et puis, de l'autre côté, les statues prise à Abomey. Alors aujourd'hui, la mise en scène des objets est bien différente. Dans les musées français, on a gommé pratiquement complètement leur passé colonial, leur caractère de butin de guerre. Aujourd'hui, au musée du Quai Branly, ils sont exposés dans une salle qui met en valeur leur qualité plastique, leur qualité d'œuvre d'art et non pas leur qualité de trophée. Et leur provenance, d'ailleurs, le fait qu'elles sont des dons du général Dodds est certes encore indiqué ici sur ce cartel, don du général Dodds, donc tout en bas, mais en très petit, juste au-dessus du numéro d'inventaire qui est encore plus petit. Et ce qui est mis en valeur aujourd'hui, c'est d'une part l'origine géographique de la pièce, mais aussi et surtout, et vous le voyez, le fait qu'il est attribué à un artiste, attribué à Don Vidé ou à Sosa Dédé, atelier à Cathy. C'est-à-dire qu'on a, au fil des siècles, et je vous renvoie aux travaux de notamment de Gaël Beaujean pour reconstituer cette évolution du trophée à l'œuvre d'art, on a gommé leur caractère de trophée pour les transformer en pièces individualisées qui ont un auteur et qui est un artiste. Par ailleurs, le dieu Gou, comme vous le savez, est aujourd'hui au pavillon des sessions, au Louvre. Il fait partie de ce petit ensemble d'œuvres extra-européennes exposées avec les grandes, entre guillemets, avec beaucoup de guillemets, avec le grand art, en quelque sorte. Vous le voyez sur cette affiche, ici, à droite, qui faisait la publicité de ce prêt d'objets du musée du Quai Branly au musée du Louvre. Et vous le voyez ici, dans les salles du pavillon des sessions, où il est également donc non plus présenté comme un trophée de guerre, mais bien comme une pièce unique, exceptionnelle, intéressante, isolée, dans un white cube, dans un environnement très neutre, qui est celui dans lequel on est habitué à voir de l'art contemporain, notamment. Donc ici, par ce deuxième exemple, on a la confirmation que la prise d'objets précieux est menée de manière systématique par les armées, par ces armées hors du contexte européen à la fin du XIXe siècle, d'une part, et d'autre part, que les premiers tris s'opèrent sur place, voilà, donc confirmation de ce qu'on avait dans le cas britannique, mais ici avec une différence au sens où, au fil des années, au fil des renouvellements muséologiques, des nouvelles répartitions, l'histoire sanglante attachée à ces objets est gommée, effacée, et le visiteur de musée aujourd'hui ne peut pas, à moins d'être bien informé, ne peut pas déchiffrer, ne peut pas comprendre lui-même la provenance de ces pièces. Avant, dernier exemple, et je me dépêche maintenant, celui de Ségou dans l'actuel Mali. Je vous renvoie à un article remarquable intitulé « Les vies du trésor de Ségou » de Daniel Folliard pour reconstituer cette histoire extrêmement intéressante et qui montre le changement de statut des objets, le changement de lieu des objets dans les collections parisiennes. Il s'agit ici d'une campagne menée par Louis Archinard en 1880. 10. Je vous lis l'extrait donné par Daniel Folliard en exergue de son texte. Les fouilles, à près de 2 mètres de profondeur, dirigées par Sadi Yagé, ancien homme de confiance d'Amadou, ont déjà donné de 2 000 à 300 000 francs d'or dont Madani ignorait, paraît-il, lui-même l'existence. Les fouilles continueront. J'ai les drapeaux donnés par El Hadj au taureau, au Nguemar, etc., etc., et le sabre d'El Hadj, quantité d'objets historiques ou curieux, toute la bibliothèque de Ségou, soit environ 2000 kilos de livres arabes, la correspondance d'Amadou à son fils, etc. Il s'agit d'une dépêche de Louis Archinard adressée à Paris donc, le 16 avril 1890 et qui porte sur ce trésor de Ségou dont on ignore trésor de Ségou entre guillemets. Vous voyez que l'utilisation des termes est très prudente par Daniel Folliard, donc un ensemble ayant appartenu à El Hadj Omar Tall, un chef religieux qui se trouvait dans une région qui est aujourd'hui à cheval entre l'actuel Mali et le Sénégal notamment, et qui comportait notamment ses collections, un ensemble de 500 manuscrits en langue arabe, qui sont aujourd'hui à la Bibliothèque nationale de France. Ce qui est intéressant dans cet exemple-là, et c'est ce que je tenais à vous montrer, c'est combien on a peu conscience en France de la présence de ce trésor, entre guillemets, dans nos collections. Pourquoi ? Bien d'abord parce que ce trésor d'Amadou, comme on l'a appelé dans les années 30, a été décimé par des vols. Je vous montre ici un extrait d'un article de journal qui évoque le vol des bijoux en or contenus, d'une partie des bijoux en or contenus dans cette collection. La légende indique la vitrine où se trouvait le trésor d'Amadou et au-dessus des bijoux semblables à ceux qui furent dérobés. Lire les détails dans notre enquête en 3e page, 4e colonne. Donc il s'agit d'un vol spectaculaire dans les années 30 qui fait qu'aujourd'hui, seules quelques pièces de ce trésor sont encore présentes au musée du Quai Branly après avoir fait un long parcours dans les différentes collections françaises jusqu'à être passé par le musée de l'armée. Je vous montre quelques-unes de ces pièces qui sont donc désormais peu nombreuses, mais qui ont été à l'époque extrêmement médiatisées lorsqu'elles étaient arrivées en France, des pièces donc d'orfèvrerie de l'Afrique de l'Ouest, extrêmement riches par leur matériel, de l'or, mais aussi par leur facture. Ici, il est question, dans ce petit article, de la première exposition de ce trophée de guerre, donc opéré contre El Hadj, contre la famille d'El Hadj Omar Tall. Je survole ce texte simplement pour rappeler, comme le disait le texte d'Archinard, que l'ensemble du butin comportait aussi une épée, l'épée d'El Hadj Omar Tall, nous dit en tout cas Archinard, une épée qui a été restituée, comme vous le savez peut-être, à la fin de l'année 2019 à Dakar, au Sénégal, Premier ministre français, au président de la République du Sénégal. Ce qui est intéressant dans ce cas-là, et la restitution de ce sabre et la cérémonie qui l'a accompagné en témoigne, c'est combien nous autres ici en France, qui sommes les possesseurs de ce grand ensemble extrêmement riche, combien nous sommes ignorants de posséder ces richesses, tandis qu'au Sénégal et au Mali, et dans la famille des descendants de El Hadj Omar Tall, l'absence de ces collections, le massacre lié à la prise de ce butin, la fin de El Hadj Omar Tall et de la famille qui avait lutté contre les colons français. Toute cette histoire est extrêmement présente dans la mémoire collective, donc en Afrique de l'Ouest, tandis que pour nous qui avons une partie des objets, c'est quelque chose d'absolument oublié. Le général Archinard a donné une grande partie, qui était originaire du Havre, a donné une grande partie de ses collections au musée du Havre. Je vous renvoie à l'ouvrage de Claude Malon, Le Havre colonial de 1880 à 1960, où il est beaucoup question de ces collections. Et si vous êtes au Havre lorsque les collections sont exposées, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui au musée du Havre, vous verrez que certaines pièces viennent donc bien de la collection du général Archinard, comme cette têtière de cheval dont il est indiqué qu'elle est un don du général Archinard. Par ailleurs, je l'évoquais à l'instant, près de 500 manuscrits formaient la bibliothèque humarienne de Ségou. Ils ont été inventoriés il y a quelques années dans les fonds de la Bibliothèque nationale et ils sont pour partie numérisés. Vous pouvez les consulter sur Gallica ou au moins consulter des microfilms, donc des numérisations de microfilms présentes sur le site. Je vous en montre un ici, simplement sans entrer dans les détails, malheureusement par manque de temps. Mais si vous consultez vous-même le site de Gallica, vous verrez que ces textes ont été bien étudiés, bien autopsiés, comme on dit. Ils sont lus, ils ont été mesurés. En revanche, leur provenance est tue, puisqu'ici, tout en bas, vous voyez que sous la rubrique provenance, il est indiqué Bibliothèque nationale de France, ce qui n'est pas la provenance, en fait, c'est leur lieu de conservation actuel, la provenance étant liée aux guerres coloniales françaises dans cette région d'Afrique. Je termine extrêmement rapidement, beaucoup trop rapidement, en quelques minutes, avec le cas de Benin City, extrêmement célèbre, que j'ai déjà évoqué au début. Vous vous souvenez que de cette région étaient venues dès le XVIe siècle des pièces extrêmement précieuses, que les visiteurs de l'époque du XVIe siècle rappelaient combien la ville de Benin City était riche, bien organisée, propre, et que, je vous rappelle ce texte, cet extrait déjà évoqué d'Olfert Tapper, il était question du palais des maisons de Benin City qui sont soutenus par des piliers de bois enchâssés dans du cuivre où leurs victoires sont gravées et qu'on a soin de tenir fort propre. Alors ces plaques de cuivre, ces plaques du Bénin qui habillaient qui habillait le palais royal de Benin City. En voici une, on les a évoquées déjà dans les cours précédents. Souvenez-vous, on évoquait Ernst Ludwig Kirchner qui en avait dessiné une, notamment qu'il avait vue dans un musée allemand. Ces plaques, donc, habillaient le palais. Elles ont été beaucoup étudiées et remises en contexte et sont aujourd'hui réparties dans des dizaines de musées dans le monde. Je vous montre ici la pièce qui représente les bronzes ou les plaques du Bénin au British Museum, ainsi que d'autres pièces comme cette tête que nous avions déjà vue lors du deuxième cours qui est conservée au Metropolitan Museum à New York. Là encore, pour dire que cette expédition dite punitive de 1897 a amené un essaimement considérable de toutes les richesses d'une ville qui ont été étudiées dans ce catalogue extrêmement riche d'expositions publiées par Barbara Plankensteiner et d'une exposition montrée notamment au musée du Quai Branly il y a quelques années, mais encore par d'autres travaux comme ceux de Ekpo Eyo qui nous rappellent la richesse de l'art nigérian. En quelques mots, vraiment beaucoup trop rapide, donc, en 1897, après un accrochage diplomatique plus ou moins monté, plus ou moins mis en scène, les Britanniques vont mettre à feu et à sang la ville de Benin City, qui est dessinée ici en aquarelle par l'un des acteurs de cette expédition punitive, un officier britannique. Je vous montre, sans les commenter, les aquarelles qui représentent donc les lieux. Ici, l'une des maisons dans lesquelles sont installés les Britanniques, qu'on reconnaît à leur costume blanc et à leur casque. La représentation, par ailleurs, ici, d'un hôtel sacré avant sa destruction et son pillage par les Britanniques, ou encore, sur cette autre aquarelle, une représentation du même genre. Ici, on est un peu avant, donc, les pillages infligés à cette ville. Les aquarelles sont conservées dans le fond de cet admiral, mais plusieurs officiers britanniques ont participé, évidemment. Vous le voyez ici, lui aussi fait partie de ceux qu'on peut collectionner dans les papiers de cigarettes au XIXe siècle, Egerton. Et son journal intime est conservé au Pitt Rivers Museum, où mon collègue Dan Hicks l'a publié en partie. On voit dans son journal intime ici, à la date du 20 février 1897, de quoi il s'agit, enfin, quelles sont ses activités du jour, sa to-do list, comme l'appelle mon collègue Dan Hicks, qui a retranscrit cette partie du journal intime conservé donc à Oxford. Et on voit qu'il s'agit donc de détruire et de mettre le feu à une partie des maisons de Benin City, détruire et y mettre le feu, et notamment récupérer les bronzes dits du Bénin, c'est-à-dire ces plaques notamment. Vous voyez ici une autre photographie, on voit les plaques au sol et les officiers britanniques qui s'en sont emparés, ainsi que d'autres trésors trouvés dans la ville, qui vont être répartis en différents lots. Là encore, vous voyez un de ces lots dans une photographie d'époque conservée, si je ne me trompe pas, au British Museum. Donc ces collections vont être dispersées dans le monde entier. Une carte de la Frankfurter Allgemeine Zeitung montre où elles sont présentes aujourd'hui, et elles font l'objet d'un traitement muséographique. Elles sont cataloguées, inventoriées. Vous voyez ici le catalogue du Pitt Rivers Museum, et certaines de ces pièces ensuite vont, alors qu'elles ont fait une station dans un musée directement après l'expédition de 1897, elles vont aller dans d'autres musées. Ici, une affiche du musée de Stuttgart, et vous voyez tout à fait à droite la tête qui était quelques années plus tôt au Pitt Rivers Museum, où, bien sûr, cette très célèbre tête en ivoire de la reine Ida qui se trouve au Met à New York. Jusqu'à même la présence de reproductions de bronze dit du Bénin dans les jardins zoologiques créés à la fin du 19e siècle, comme au jardin zoologique d'Antwerpen, où on trouve, d'Anvers donc, où on trouve dans la maison des singes un décor qui rappelle les bronzes du Bénin. La symbolique de la présence de cet art royal de cour extrêmement précieux, extrêmement riche et de longue tradition dans la maison des singes construite à la fin du 19e siècle nous fait comprendre combien la posture, ou en tout cas interroge la symbolique du lien entre les singes et cet art de cour du Bénin interroge. Je finis, malgré la longueur, très très rapidement avec la troisième partie qui s'intitule « Collection collatérale ». J'avais déjà évoqué le fait que les musées demandaient activement, à partir de la fin des années 1880, demandaient activement aux militaires présents sur place sur le continent africain de leur trouver des pièces. Vous vous rappelez du lieutenant-colonel Archinard qui écrivait au directeur du musée d'ethnographie en 1883 « J'ai déposé lors d'un passage un certain nombre d'objets provenant du Niger. Vous m'aviez demandé des crânes de la vallée du Niger. J'en ai ramassé deux à Bamako » qu'il vient apporter donc au musée d'ethnographie du Trocadéro. Au milieu des années 1880, à Bruxelles, c'est le secrétaire général de l'Association internationale africaine, Maximilien Straor, promoteur précoce de l'idée de musée en Belgique, qui attire l'attention du lieutenant Émile Storms sur l'intérêt de collectionner des crânes humains en Afrique. En plus d'objets ethnographiques, lui écrit Strauch, en 1883, il faudrait que Storms rassemble quelques crânes de nègres indigènes. Voici Émile Storms, les deux sont tirés d'une collection conservée de portraits conservés à la Bibliothèque nationale que vous pouvez consulter sur Gallica. Et Strauss lui écrit « Choisissez autant que possible les crânes d'individus appartenant à une race bien tranchée et dont le caractère n'a pas subi de modifications physiques par suite de croisements. Notez soigneusement le lieu d'origine des sujets ainsi que leur âge quand cela est possible. » Et en effet, Émile Storms livrera des crânes, dont le fameux crâne de Lusinga qui fait aujourd'hui l'objet de revendications très ferme de la part des Africains qui supportent mal l'idée d'avoir ce crâne dans les collections bruxelloises. D'autres exemples allemands montrent comment, donc, au-delà des pillages liés à des actions militaires précises, au-delà des grandes confiscations, des grands butins, les militaires, y compris les médecins militaires, ont profité de leur présence sur place pour collectionner des objets dont qu'ils envoyaient ensuite au musée européen, très souvent en échange de médailles et de décorations et de distinctions. Vous voyez ici une liste qui indique par exemple que un lieutenant, Freiherr von Butler Brandenfels, a récupéré sur le champ de bataille, sur un champ de bataille lié au génocide des Herero et des Nama en 1907, a récupéré des bijoux sur une femme qui avait été touchée par une grenade. C'est ce qu'indique ce texte. Par ailleurs, les musées de Berlin, au début du XXe siècle, sont fiers de pièces qu'ils viennent d'obtenir, notamment celle-ci, qu'ils annoncent donc dans leur bulletin des nouvelles acquisitions en 1908. Il est question ici de cette pièce, donc les esprits sensibles seront, enfin, accrochez-vous, le texte qui accompagne cette nouvelle acquisition stipule « Nous devons au capitaine Forster une importante collection du Sud Cameroun, parmi lesquelles un certain nombre de coiffures des Ntoum, très difficiles à obtenir et qui méritent une mention spéciale. Ces derniers, les Ntoum, ont l'habitude d'emmêler leurs cheveux vivants dans de grandes formes très bizarres et de les décorer avec des corisses, des boutons européens, des aiguilles, etc. » Le capitaine Forster a réussi à couper plusieurs de ses coiffures si près du cuir chevelu qu'elles ont pu être transportées comme des perruques finies et placées ici sur des têtes en plâtre peintes de façon réaliste. Vous le voyez ici, il ne s'agit pas d'un acte de guerre, mais bien de la présence d'un capitaine, d'un militaire qui utilise son autorité, qui utilise sa puissance pour obtenir des populations locales des faits que sans doute il n'aurait très évidemment pas obtenu en temps normal, c'est-à-dire d'obtenir leur chevelure entière. On peut imaginer ici qu'il n'y a pas consentement. Et d'ailleurs, toute la question du consentement qui nous avait beaucoup occupé au cours, sur les explorateurs est ici réglée. On voit bien que ni dans les cas des pillages, ni dans le cas de ce type d'acquisition, sur les personnes de parties extrêmement intimes de leur corps, on ne peut pas considérer qu'il y a dû y avoir consentement, et ces objets sont aujourd'hui dans nos musées européens. Je vous remercie de votre attention, je vous demande pardon pour le retard, et nous nous retrouvons la semaine prochaine avec un cours consacré aux missionnaires et qui sera intitulé « Au nom du Christ ».